AFR, bonjour Madame Kristeva.
Bonjour.
Vous avez trouvé facilement?
Grâce à
Amel qui travaille dans l'équipe du Grand Atelier. Vous êtes la bienvenue. Je précise que vous avez sorti Le Génie Féminin avec un tome consacré à Colette il y a 20 ans. Vous qui êtes arrivée en 1965 à Paris comme boursière venant de votre Bulgarie natale, est-ce que Colette... Vous parlez français depuis la maternelle parce que vous étiez dans une école française, Julia Kristeva, mais est-ce que Colette était l'exemple de la femme française pour vous, avec cet amour qu'elle a du terroir, de la nature, des bêtes et finalement des hommes et des femmes? Est-ce qu'elle vous éclairait comme ça? C'était une figure?
Écoutez, c'était pas encore le temps du féminisme, parce que vous me rappelez cette Bulgarie de mon enfance, ça remonte à longtemps. J'ai 80 ans maintenant, donc faisons le compte.
Oui, mais l'enfance est toujours présente, notamment chez les écrivains.
Mais le mouvement pour l'émancipation des femmes, ça dure depuis l'Antiquité, n'est-ce pas? Puis, à l'époque, passer par le français était pour mes parents absolument indispensable pour sortir, comme disait mon père, de l'intestin de l'enfer. La seule façon, c'était d'apprendre les langues étrangères. Et puis, le français était pour eux, compte tenu de leur éducation, la meilleure. Et moi, j'avais suivi de la maternelle française qui était dirigée par, je croyais, des bénédictines. Finalement, c'était des assomptionnistes. Et qui nous donnait comme devoir de vacances un certain nombre de textes, d'extraits.
Et Colette en faisait partie.
Et Colette en faisait partie, pas comme féministe, mais comme quelqu'un qui incarne l'esprit français et la beauté de la langue, et une langue enracinée dans une histoire, dans un paysage. Je pouvais avoir le goût de la France ainsi. Et je me souviens qu'on allait chez ma grand-mère, qui avait un jardin, dans une ville en Bulgarie, je montais dans les arbres avec mon petit cahier et je récitais des phrases de Colette. Et je me souviens toujours parce que il y a 20 ans, j'ai fait ce livre que vous avez la gentillesse de mentionner. Et je me souviens encore de l'avidité orale, gustative, spirituelle, peut-on dire, qui m'habitait à ce moment-là au grand dam de grand-mère qui disait que cette fille qui monte dans les arbres et qui ne sait pas repasser, elle ne se mariera jamais, c'était du genre rose, noire, confiture, d'odeur. Et pour moi, c'était le comble de la poésie, du style français et de la saveur de la langue.
Peut-être qu'elle vous a permis de devenir française.
Après, j'ai continué parce que ces religieuses, on les a convaincues d'espionnage et leur œuvre a été reprise par l'Alliance française et je me considère comme une enfant de l'Alliance française. Donc j'ai continué avec d'autres auteurs que Colette, mais je l'ai retrouvée en effet il y a quelques années quand j'ai voulu, je suis devenue dans la foulée, sans le savoir, une féministe atypique. Alors, ce qui veut dire que je me méfie un peu des mouvements, parce que ça commence par être libérateur et ça devient très vite, ou moins vite, mais ça devient à un moment donné un peu sectaire et autoritaire. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment ces mouvements d'émancipation féminine ont donné des œuvres particulières, des individus créatifs. Ou créative en l'occurrence. Et dans le siècle que je connais le mieux et où se situent un peu mes compétences, j'ai choisi trois auteurs qui ont donné cette trilogie. Hannah Arendt, pour la philosophie et l'expérience historique de femmes juives qui a failli être envoyée dans des camps et qui finalement est échappée et qui a créé une œuvre magnifique, philosophique. Melanie Klein.
La psychanalyste austro-britannique.
Voilà, qui était en effet une disciple de Freud, un peu dissidente, mais toujours restée fidèle à sa pensée, qui a fondé la psychanalyse des enfants et qui influence beaucoup la psychanalyse contemporaine.
Et puis ce troisième tome consacré à Colette.
Consacré à Colette, et je terminerai là, mais en vous disant pourquoi Colette, parce qu'il y a plein de femmes qui écrivent, la plupart sont mélancoliques. Quand elles ne se suicident pas, il y a un raffinement dans la poésie, dans le langage.
Pensez à Virginia Woolf.
Je pensais... consacré le troisième volume à Virginia Woolf, ou à Anna Akhmatova, ou à Emily Dickinson. Et je me suis dit, mais je trouverais quand même une qui, tout en ayant traversé la mélancolie,
des souffrances, des dépressions,
s'éclate et nous transporte dans la joie de, donc pas seulement de vivre, mais de le dire.
Vous savez ce qu'on va faire avec Antoine Compagnon et vous, Julia Kristeva et les auditeurs? Nous allons à Saint-Sauveur en Puisée, en Bourgogne, à 150 km de Paris, 150 km Dijon. C'est un trou de verdure tellement bien décrit par Colette. Antoine Compagnon, vous le disiez, vous y êtes allé avec bonheur. Elle parlait d'une région illuminée des temps. Comme c'est beau, cette phrase.
Elle a passé dans ce village ses 18 premières années et ça reste l'endroit du paradis enfantin. Et bon, c'est aussi l'endroit de ce qu'elle appelle sa sauvagerie. Elle et ses frères étaient des sauvages, même s'ils lisaient beaucoup, par ailleurs.
Ils se promenaient beaucoup dans la campagne.
Ils se promenaient dans la campagne.
On peut même se promener encore aujourd'hui dans un sentier, Colette.
Je l'ai fait dimanche dernier.
Avec vos bottes.
Après avoir parlé à Saint-Sauveur, j'ai fait 6 kilomètres et on passe par Moutier, par les endroits que sa mère évoquait lorsqu'on entendait la pluie qui vient de Moutier. Donc on vivait à Saint-Sauveur, près de la nature, avec les animaux et avec les fleurs et les plantes. Et
c'était une famille originale, pas très appréciée des villageois. Ils vont devoir partir à un moment. Il y a des ragots contre les Colettes, parce qu'ils sont trop en avance, parce qu'ils sont un peu avant-gardistes ou bohèmes.
Le père avait des ambitions politiques qui n'ont pas été satisfaites, mais qui l'ont brouillé avec la plupart de leurs voisins. Et bon, c'était des originaux, indubitablement, et Sido est le capitaine. Ils n'étaient pas nés là, ils ne venaient pas de ce village, et ils ont toujours été des étrangers dans ce village. Ils avaient donc une assez mauvaise réputation, et puis financièrement ils se débrouillaient mal, ils se sont ruinés, oui. Et c'est pourquoi ils ont dû partir.
Il était précepteur, mais il n'était pas doué du tout avec l'argent, paraît-il.
Apparemment non, mais là aussi c'est sa femme qui le chargera par la suite. Il l'aurait ruiné, mais en vérité elle se serait ruinée elle-même aussi.
Alors, Claudine se venge, enfin en tout cas
Colette. Ils ont vendu peu à peu leurs fermes. Oui. Ils avaient un certain nombre de fermes et ils ont été sans doute trompés par leurs fermiers.
Colette va se venger dans Claudine à l'école en montrant un visage pas très amène des habitants, même si le nom du village et le nom des habitants sont modifiés, tout le monde se reconnaît et tout le monde est très très furieux. Le village s'appelle Montigny dans Claudine à l'école. Écoutez les premiers mots du roman lu par Valérie Lemercier.
À partir du jour où la première figue seconde est mûre, vous pouvez compter que chaque matin, une autre, 10 autres figues secondes vous tombent dans la main, molles, le col infléchi, avec leur œil de faisan au derrière, et sur leurs flancs, les rayures parallèles qui fendillent leur tendre peau violette ou grise. Les premiers jours, on ne s'en rassasie pas. Qu'est-ce pour notre appétit que 6, que 10, que 12 figues, encore froides de la nuit, qui s'ouvrent par moitié et rouges au-dedans comme la grenade. Elles n'ont pas encore tout leur miel et se font d'autant plus facile à la bouche. Mais la maturité se hâte et les multiplie. La semaine n'est pas finie que le gros figuier et le jeune figuier d'en bas et le figuier tortu sont accablés de figues mûres, pendues par le goulot comme les nids de l'oiseau appelé cassique. Nous n'en venons pas à bout. Elles méritent la récolte totale, puis la clé.
Alors là, vous vous dites, elle a changé de voix, Valérie Lemercier. Effectivement, c'était pas l'élément que je souhaitais entendre, mais c'est pas grave parce qu'on entendait Madeleine Renaud, et c'est très bien aussi lire Le Fanal Bleu, qui est le dernier ouvrage de Colette qui revient sur sa vie. C'est toujours bon, Julia Kristeva, d'entendre cette langue qui vous marquait déjà petite fille, sa précision, son art de l'observation et de la précision.
Oui, et surtout, moi j'étais dès cette époque-là de mon enfance, mais par la suite, puisque je suis venue pour faire une thèse sur le nouveau roman, j'étais intéressée par l'avant-garde, ce qu'on appelle l'avant-garde, qui va de Mallarmé au surréalisme et le nouveau roman. Et Colette a le génie de s'exprimer dans un français classique, d'une grande beauté, d'une grande rigueur, et en même temps de faire chanter les mots avec toutes les sensations de la sonorité du verbe, mais aussi de toutes les sensations que lui provoque l'univers environnant. Vous parliez tout à l'heure de la forêt, des bêtes, des fleurs, etc. Et tout ça passe par des métaphores, par des récits. Et comme elle le dit, elle accroche toujours une partie d'elle-même partout où elle passe, sur une fleur, sur un animal, etc. Et c'est cette cohabitation avec l'univers sensible, cosmique, qui passe dans la langue, fût-elle la plus classique. Et c'est ce mariage du classicisme et d'une, on a parlé d'elle comme d'une mystique païenne, et qui m'a absolument fascinée.
Ah, c'est beau ça, mystique païenne. Est-ce que vous trouvez que ça correspond à Colette, Antoine Compagnon?
Écoutez, pourquoi pas? Bon, il y a, pour moi, Colette est quand même un écrivain de la matière, hein. Il y a un grand matérialisme de Colette. On a parlé de la sensation, mais je dirais que peu d'écrivains ont aussi bien parlé de tout ce qui est la matière. Et bon, c'est vrai qu'il y avait chez elle une dimension spirituelle,
oui,
hein, par ailleurs.
Mystique me et, semble juste. Oui.
En particulier, elle était très intéressée par le spiritisme. Vous parliez de
faire tourner les tables, oui, pour en appeler à Colette aujourd'hui.
Colette consultait des spirites, Colette allait voir des voyantes. Et,
peut-être quand elle était déprimée.
Peut-être
des amours malheureuses.
Oui, oui, je crois que ça faisait partie de cette culture qui venait aussi de sa famille, hein. Et elle était intéressée par le spiritisme indéniablement.
On va se rendre, je vous le disais tout à l'heure, dans cette fameuse maison de Colette, puisqu'un professeur de lettres de 45 ans, passionné de la romancière, a réussi à réunir des fonds pour racheter la maison et lui rendre son aspect d'autrefois. Beaucoup de meubles ont été retrouvés, les jardins ont été rétablis comme à l'époque de Colette, comme à l'époque de sa mère Sido, en s'inspirant des livres que pouvait lire Sido à l'époque, des livres de botanique de la fin du 19e. Même le papier peint a été recréé. On est vraiment chez Colette la romancière avec l'impression qu'elle, petite fille aux longues tresses, va ouvrir une porte et que sa mère va crier « Où sont les enfants ?». La visite se fait en compagnie de ce directeur de l'association et de la maison de Colette que vous pouvez visiter, ça coûte 11 euros, Frédéric Maget.
Donc on arrive ici devant la façade de la maison de Colette et on reconnaît notamment sur la façade un macaron en marbre. Ici, Colette est née, ce macaron en marbre qui a été posé en 1925.
C'est une maison de village à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils.
On quitte la cour et on va gravir quelques marches qui mènent de la cour vers la terrasse. Terrasse dallée, creusée en son berceau, couverte de glycines et de bignonniers mêlés, hein, dit Colette au début de la maison de Claudine, puisqu'ici c'est le musée des sept Sido. Alors sa mère, Sido, a la passion de la botanique, elle consacre beaucoup d'heures, d'argent d'ailleurs, à ses jardins. Et donc c'est ici que Sido va tenter d'acclimater toutes sortes de plantes, notamment sur ce petit meuble que vous voyez juste en face de nous, hein, sur des gradins de bois peint en verre. Ma mère entreposait dans des godets d'argile rosier nain, cactus meurtrier, reine des prés au panache de brume blanche et rose.
Je suis la fille d'une femme qui, dans un tout petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Puissais-je n'oublier jamais que je suis la fille, que je suis la fille d'une telle femme, qui penchait tremblante, toutes ses rides éblouies, entre les sabres d'un cactus sur une promesse de fleurs. Une telle femme qui ne cessa elle-même d'éclore infatigablement pendant trois quarts de siècle.
Un jour, Sido a laissé trois godets d'argile avec uniquement de la terre meuble et elle a oublié d'indiquer par une petite fiche en bois ce que chaque pot contient. Elle ne sait plus si ce sont des bulbes de crocus ou des chrysalides de pan de nuit. Alors, elle est là, elle sait trop que faire, et sa fille lui fait une suggestion. « Mais enfin, maman, tu n'as qu'à gratter pour voir. » Et 50 ans plus tard, elle n'avait pas oublié la réponse de sa mère, qu'elle retranscrit dans Sido. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans. Tu ne comprends rien à ce qu'il veut vivre. Apprendre à respecter la vie, même au plus secret de la terre. Laisser le temps aux éclosions, hein, c'est une des leçons que Sido va transmettre à Colette. Mais aussi des leçons de vie, parce que les dernières paroles de Colette en 1954, ses dernières paroles publiques, seront adressées à des étudiants. « Le monde m'est nouveau chaque matin à mon réveil et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre. »
Le jardin du haut commandait un jardin du bas. Potager, resserré et chaud, consacré à l'aubergine et au piment, où l'odeur du feuillage de la tomate se mêlait en juillet au parfum de l'abricot mûri sur espalier. Dans le jardin du haut, deux sapins jumeaux, un noyer, dont l'ombre intolérante tuait les fleurs, des roses, des gazons négligés, une tonnelle disloquée.
Son enfance ici a été baignée par toutes ces sensations et surtout l'appel à les exercer ses sens. Hein, lorsque Sido lui dit « Regarde cette abeille qui est en train de manger ce morceau de viande, regarde ce bouton d'iris qui va s'ouvrir et qui va éclore, regarde le soleil couchant », essaye de fixer en toi le souvenir de tous ces sens. Et Colette va faire provision ici, dans ses jardins, dans les bois alentours, d'une somme de sensations extraordinaires qu'elle va ensuite, pendant un demi-siècle, faire revivre dans ses textes.
Frédéric Magé, on va rentrer dans la maison, mais on pourrait faire une petite pause avec un ami de Colette. Elle a connu les musiciens de son époque. Hein.
Oui, Colette a été très proche des musiciens de son époque. Il faut dire qu'elle a épousé avec Willy un des critiques musicales les plus craints de l'époque, hein, qui faisait, défaisait les carrières et aussi de l'avant-garde musicale de son temps. C'est Willy qui va ouvrir à Colette les grands salons musicaux de l'époque. C'est là qu'elle côtoie tous les grands compositeurs de son temps, dont elle va devenir une amie, presque une camarade. Ça sera le cas avec Gabriel Fauré, ça sera le cas avec Claude Debussy, ça sera aussi bien sûr le cas avec Maurice Ravel, avec qui elle va écrire L'Enfant et Sortilège, et ça sera également le cas d'un très bon camarade, Francis Poulenc.
On écoute Poulenc ?
On écoute Poulenc avec grand plaisir. Il y a deux pièces qui sont vraiment très importantes pour comprendre la personnalité et l'œuvre. C'est la chambre de Sido, où Colette est née, et sa chambre d'enfant. Alors ici, c'est là qu'elle est née, justement, le 28 janvier 1873. Un accouchement difficile, hein, puisqu'il aura duré 3 jours et 2 nuits. Il faisait très très froid, elle est née le 28 janvier, il faisait très très froid en Puisaye. Mais Sido, je vous rassure, dira à sa fille bien des années plus tard, « Tu sais, chérie, je n'ai jamais regretté ma peine, car quand on porte des enfants comme toi si près du cœur, il est normal qu'ils mettent du temps à descendre vers la lumière. »
Quand je t'ai mise au monde, toi, la dernière, Minée chérie, j'ai souffert 3 jours et 2 nuits. Pendant que je te portais, j'étais grosse comme une tour. 3 jours, ça paraît long, mais je n'ai jamais regretté ma peine. On dit que les enfants portés comme toi si haut et lents à descendre vers la lumière, sont toujours des enfants très chéris, parce qu'ils ont voulu se loger tout près du cœur de leur mère, et ne la quitter qu'à regret. La maison de Claudine.
Vous voyez déjà le poids que Sido fait poser sur sa fille.
En même temps, un sens de la formule et de la langue. C'était une littéraire, Sido.
La véritable écrivaine rentrée, c'est Sido. Et c'est vrai, quand on relit les lettres de Sido à sa fille, on voit ce sens de la formule, ce génie, aussi ce respect du vivant qu'on va retrouver chez Colette, et aussi ce côté très frondeur et très indépendant. Par exemple, ici, dans cette pièce, vous voyez deux lits. De lits largement espacés, dit Colette dans ses textes.
Avec une petite table de nuit entre les lits.
Avec une petite table de nuit, une petite table de chevet, on va reparler. Alors, pourquoi de lits largement espacés? Il faut dire Sido, qui avait été élevé donc auprès de Victor Considérant dans la libre pensée, a des idées très avancées, presque pré-féministes. Par exemple, elle dénonçait le mariage. Que le mariage est une chose bête. Vive l'union libre, tu verras que le XXe siècle me donnera raison. J'ai 3 siècles d'avance sur mon temps, prétendait-elle. Et elle considérait finalement que c'est pas parce qu'on avait épousé quelqu'un qu'on devait le supporter. Donc il y avait 2 lits largement espacés. Sur la table de chevet, on voit 2 livres. C'est les Mémoires de Saint-Simon, la lecture préférée de Sido. Mais aussi un objet plus étrange, puisqu'on voit juste à côté des volumes de Saint-Simon, une petite chocolatière en argent. Sido, qui souffre d'insomnie régulièrement, garde toujours à côté d'elle, sur une petite tisanière, un bol, une tasse de chocolat chaud. Mais elle n'est pas la seule à en profiter, puisque Colette nous raconte que chaque nuit, à 3 heures du matin, une occupante s'éveille.
Une belle araignée des jardins, ma foi. Le ventre en gousse d'ail, barré d'une croix historiée. Elle dormait ou chassait le jour sur sa toile tendue au plafond de la chambre à coucher. La nuit, vers 3 heures, l'araignée s'éveillait. Prenait ses mesures d'arpenteur et quittait le plafond au bout d'un fil, droit au-dessus de la veilleuse à huile où tiédissait toute la nuit un bol de chocolat. Elle descendait, balancée mollement comme une grosse perle. Elle empoignait de ses 8 pattes le bord de la tasse, se penchait tête première et buvait jusqu'à satiété. Et puis elle remontait, lourde de chocolat crémeux, avec les haltes, les méditations qu'impose un ventre trop chargé, et elle reprenait sa place au centre de son gréement de soie.
Colette nous décrit l'araignée qui descend chaque nuit, pose ses petites pattes au bord de la tasse de chocolat fumant, plonge, boit à satiété et remonte par à coup le ventre gorgé de chocolat crémeux jusqu'à son gréement de soie. Ce qui voit à Sido cette remarque un peu ironique de son mari, l'araignée, c'est vous qui l'avez au plafond. Donc ici on est dans la tanière enfantine de Colette, sa caverne.
Toute petite chambre en longueur.
C'est ça, assez étroite, base de plafond, avec ce plafond peint en gris, ces murs gris et terre de sienne, cette unique fenêtre donc sur la rue, donc c'est une pièce assez sombre, donc il fait très froid. On le voit d'ailleurs, il n'y a pas de cheminée ici, à la différence de toutes les pièces qu'on a traversées, puisque ça n'a jamais été prévu pour être une chambre. C'est un ancien grenier que Sido a fait aménager pour garder sa fille à ses côtés. Et lorsque Colette va quitter sa tanière, grâce au mariage de sa demi-sœur aînée, Juliette, Sido commence à faire des cauchemars. Elle rêve qu'on va enlever sa fille. Et elle le dit à sa fille à l'heure des repas, se souvenant de son enfance en Belgique, de fille qui était enlevée. Et au matin, on était obligé de réparer, donc de la marier. Et elle lui dit, mais tu sais, il y a des étrangers dans le village qui enlèvent les petites filles. On me l'a dit. Alors la première pièce qui nous accueille à l'étage, c'est là que Colette non seulement a découvert la littérature, mais c'est probablement là qu'est née sa vocation littéraire. Pourquoi ? Parce que dans cette pièce travaille le capitaine Colette. Alors le capitaine, il a un grand projet, il rêve de devenir écrivain. Donc faut vous imaginer qu'il vient s'enfermer ici, derrière ce bureau, s'assoit sur ce même fauteuil qui a pu être retrouvé là encore, et il travaille. Mais dans la famille, assez vite, on est intrigué parce qu'on ne voit jamais rien paraître. Et il faut en fait attendre la mort du capitaine pour qu'on découvre, au sommet de la bibliothèque à 2 corps en acajou, vous voyez ici, une 12aine de tomes cartonnés, avec des étiquettes, des titres en lettres gothiques, chansons de zouaves, souvenirs d'Algérie, l'algèbre élégante, l'œuvre mystérieuse du capitaine, toute cette œuvre qu'il avait écrite pendant toutes ces années. Alors les enfants partent à la découverte de cette œuvre mystérieuse, ils ouvrent chacun des volumes, des centaines, des milliers de pages blanches. L'œuvre imaginaire de mon père, le mirage d'une carrière d'écrivain. Elle raconte qu'il n'avait noirci que la première page du premier volume avec une très jolie dédicace à ma chère âme, son mari fidèle, Jules, Joseph, Colette, et puis plus rien. Alors bon, le capitaine, c'est un peu le modèle des personnages masculins chez Colette, parce que les hommes chez Colette, c'est pas vraiment ça, mais c'est aussi probablement l'initiateur d'une vocation qui ne dira jamais son nom.
C'est elle qui a rempli les pages.
Exactement, c'est ce qu'une voyante lui suggérera, en rendant visite à une voyante qui prétendait avoir un message à lui transmettre de l'au-delà, d'une personne qui veille sur elle. Colette arrive, persuadée qu'il s'agit de sa mère, Sido, elle lui dit non. C'est un homme avec une très longue barbe blanche et des yeux bleus, très bleus. Souvent, quand vous travaillez, il est par-dessus votre épaule et il sourit, car vous avez pu ce que lui n'a pas pu. Elle était devenue écrivaine pour noircir les pages blanches de son père.
Voilà, à propos de cette maison d'enfance qui se visite encore une fois à Saint-Sauveur-en-Puisaye dans l'Yonne, en Bourgogne, je précise que ce lieu vit uniquement, Antoine Compagnon, de la billetterie, de 9 à 11 euros l'entrée. Elle ne bénéficie pas pour le moment de subventions publiques. On espère que cela va changer parce qu'il serait normal que la région, le département, la mairie soutiennent Frédéric Magey dans sa volonté de rendre Colette au public. Il s'est dit beaucoup de choses. Vous étiez très attentive, Julia Kristeva. Je pense notamment à ce qui vient d'être dit par le directeur à l'instant du désir du père de devenir écrivain et de ses cahiers découverts par la famille blancs, sauf la couverture où il imaginait un livre possible. Est-ce que la psychanalyste Julia Kristeva va pouvoir nous parler de ce côté « je suis mon père » quand je m'aimais moi-même à écrire de Colette?
Mais écoutez, j'étais très très touchée et je remercie d'avoir parlé de cette maison, de tout ce que Frédéric Magey a dit.
Vous la connaissez cette maison, hein?
Moi, je la connais et je fais de ceux qui ont soutenu ce projet d'acheter la vieille maison, de la reconstruire et d'inviter tout le monde à aller la voir, parce que comme on est en train de lui dire tous aujourd'hui, il y a chez Colette ces mots magnifiques, mais qui s'incarnent dans la réalité de la vie, des arbres, de la forêt, des bêtes, etc. Et cette incarnation est d'autant plus sensible si on la lit en visitant, parce que son œuvre est incarnée et pour mieux la lire comme une invitation à incarner le verbe dans ce qui nous entoure, de passer du on va dire de l'abstraction à l'émotion, ils vont mieux passer aussi par l'endroit où ça s'est fait.
Il faut une expérience sensorielle, finalement.
Voilà. Et donc, ce n'est pas un culte de Colette, cette maison. C'est une initiation à la lecture. Si vous passez par ces endroits, vous les lisez autrement.
Je suis d'accord avec vous. Antoine Compagnon, en y allant, on est allé à un jour d'intervalle, d'ailleurs, c'est drôle. J'ai eu le sentiment de mieux la connaître et de mieux la comprendre, de mieux la lire.
Oui, c'est exact. Ben, on lit La maison de Claudine et Sido. Mais n'oublions pas que Colette n'est pas quasi pas retournée dans ce village.
Oui, c'est pas la femme d'un seul lieu, elle a beaucoup voyagé, elle a eu beaucoup de maisons.
Oui, elle a eu beaucoup de maisons, et puis c'était une Parisienne. Il y a une légende parisienne de Colette, elle a beaucoup déménagé dans Paris, il y a un livre sur ses déménagements dans Paris, elle est aussi très identifiée à Paris.
Donc la dame du Palais Royal.
Quand on l'entend avec son accent qu'elle a toujours voulu conserver, on comprend qu'elle a vraiment tenu à le conserver, parce qu'elle est parisienne depuis l'âge de 20 ans jusqu'à sa mort en
81 ans,
et elle a tenu à garder cet accent.
Mais il paraît même qu'elle se forçait un peu à rouler les airs, que par moments elle perdait cette façon de prononcer les mots.
N'oublions pas que lorsqu'elle était sur scène, puisqu'elle a aussi été actrice, comme on l'a rappelé, elle parlait de cette façon. Et sa mère lui disait qu'elle était certainement une très mauvaise comédienne, en disant « comment peux-tu te montrer sur scène ?» Donc Saint-Sauveur compte indiscutablement. Quand on est à Saint-Sauveur, on respire les livres comme La maison de Claudine et Sido. Mais c'est aussi, comme Julia Kristeva le rappelait, de la littérature. Donc c'est pour voir ce que Colette a fait de cette maison et de ce paysage dans son œuvre. C'est pour ça que cela importe.
Antoine Compagnon, Julia Kristeva, restez avec nous dans ce grand atelier fantôme consacré à l'écrivaine Colette, en direct de la grande halle de la Villette. C'est le festival Mot pour Mot. Nous allons écouter La Femme. La Femme, c'est un groupe qui tourne beaucoup, qui s'est baladé entre autres au Brésil et en Espagne. Et le résultat de cette promenade dans ces pays, on donne ça, Sacatella.
Le Grand Atelier, Vincent Joss, sur France Inter.
Sacatella, 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 sacatella. Cuando tú giras la cabeza, va buscando otra polla. Eres amoroso y es la polla, pero te comerá como una chupaca. Sácatela, 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 sácatela.
historia, una broma. Ayúdame a sacarla de mi cabeza.
Sácatela.
Julia Kristeva, il y a aussi dans le reportage qu'on a écouté à la Maison de Colette un sujet inépuisable. On a commencé à en parler dans la première heure de cet atelier Fantôme Colette. C'est cette relation mère-fille qui forcément passionne la psychanalyste que vous êtes, le grand talent d'observateur qui durera toute sa vie, qu'elle soit journaliste, chroniqueuse ou écrivaine, de Colette, née de son éducation maternelle. Elle doit ça à Sido.
Oui, vous avez posé plusieurs questions auxquelles je n'ai pas répondu, et là, ça me permet de les condenser. Sido était celle qui l'a initiée à regarder l'éclosion des fleurs, de la nature. Et le thème de l'éclosion, c'est-à-dire de la naissance, va devenir essentiel dans l'œuvre de Colette. Et elle va dire ça qui est devenu un peu ma devise. C'est dans l'éclosion que réside le drame essentiel. Vous imaginez les fleurs, on pense jamais que c'est un drame, mais c'est un drame parce que c'est la vie qui commence. Et c'est ce que Colette a appris de sa mère, qui d'ailleurs n'est pas venue à son mariage parce qu'elle voulait contempler l'éclosion de cactus rose. Et ça lui a permis de laisser une liberté à sa fille qui ment en écrivant beaucoup de choses du passé. Ce n'est pas ça exactement que ça s'est passé. Il dit femelle je suis, femme j'étais, femelle je le serai, qu'il nous reste dans la vie écrire et mentir. Donc c'est la dimension de l'imaginaire qui transpose les choses. Mais ce mensonge, cette transposition reste toujours en relation avec le message éternel de la mère, de l'éclosion et du fait qu'elle est mariée à la vie à travers sa mère.
Et je pense à l'idée de l'éclosion. Colette, à chaque fois qu'elle est au fond du gouffre, au fond de la dépression, souvent à cause d'amour malheureux,
elle arrive à survivre.
Elle renaît comme une fleur l'année
Absolument.
Suivante.
Et il dit quelque chose qu'on a déjà gravé sur notre tombe à l'île de Ré. Il dit « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ».
C'est beau ça, hein.
C'est magnifique, c'est gonflé, enfin, comment on peut dire ça? Mais quand on vit avec une mère de cette façon-là, et quand on veut la dépasser, tout en disant, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de dire ça, Colette n'était pas une bonne mère.
Oui, on en parlera. Voilà. Mais je voudrais faire réagir Antoine Compagnon à cette renaissance.
Les rapports de Colette et de Sido sont évidemment très conflictuels. Vous avez lu tout à l'heure le passage sur les cheveux de Colette. Oui. Lorsque Colette coupe sa tresse qui allait jusqu'au sol à l'âge de 30 ans, sa mère considère que c'est une trahison, que c'est un blasphème, c'est un choc terrible.
Que c'est renier sa mère.
Et ce qui est aussi très frappant, parce qu'on l'a dit, Colette a fait de Sido le personnage principal de son œuvre, comme elle le dit, mais elle n'a rien écrit de sa mère avant la mort de sa mère. Et dans Colette à l'école, dans Claudine à l'école, dont nous parlions tout à l'heure, il n'y a pas de mère.
Oui, c'est vrai, c'est Claudine. Fou. Il y a un père, mais il n'y a pas de mère.
Oui, n'a qu'un père, elle a écarté
Sido,
la mère.
Sido, c'est Colette. Elles ont le même prénom. Sidonie. Colette s'appelle Sidonie Gabriel.
Sidonie Gabriel.
Et quand elle fait Colette maman, elle la transpose en elle-même. C'est une sorte d'appropriation des traits de sa mère à sa façon à elle.
Alors l'autre chose tellement étonnante, c'est au moment de la mort de sa mère, alors que Colette est à la veille de ses 40 ans, qu'elle fait enfin un enfant ce que sa mère lui avait toujours, alors que sa mère lui avait toujours dit qu'elle n'en était pas capable.
Hein. Et elle tombe enceinte après la mort de sa mère.
Elle tombe enceinte dans les semaines qui suivent la mort de sa mère et elle se met à écrire sur sa mère à ce moment-là. Et tout ça nous montre la complexité de ce rapport mère-fille. Et puis alors on parlait de la fille de Colette à qui elle donne ce prénom de Colette.
Qui est le nom de son père. Et là on revient
à
votre question du rapport au père. Donc, le père s'appelait Monsieur Colette de son nom de famille. Elle donne ce nom de famille à sa fille. Et Belle Gazou, on l'appelle, mais Belle Gazou...
Son surnom, c'est Belle Gazou.
C'était déjà le surnom de Colette.
C'était son père lui donnait à elle.
Oui.
Donc, en effet, elle ressuscite quelque chose de masculin chez son père, qui était unijambiste, il faut souligner
ça
aussi.
On l'évoquait tout à l'heure.
Donc, psychanalyste comme je suis, je ne peux pas ne pas rappeler que pour le docteur Freud, ce serait une forme de reconnaissance et d'assomption de la castration. Mais aussi bien l'incapacité d'écrire que cette amputation n'empêche que pour elle, il y a le portrait de son père est plein de tendresse et de glorification en quelque sorte.
Et surtout, il y a l'idée que l'amour de ses parents restera jusqu'au bout le modèle de l'amour pour Colette. Hein, l'amour réussi, ce sont son père et sa mère qui ont vieilli ensemble.
Ce qu'elle n'a pas réussi à faire avec ses hommes et ses femmes.
Maurice Coudequet, son troisième mari, elle l'appelle mon meilleur ami dans toutes ces années.
Plus jeune qu'elle.
Beaucoup plus jeune qu'elle. Alors que Willy était âgé de plus de 15 ans, ensuite Jouvenel et Goudquet seront des hommes beaucoup plus jeunes.
J'ai retrouvé la citation que vous évoquiez tout à l'heure, Julia Kristeva, j'aime beaucoup. « Femelle j'étais et femelle je me retrouve pour en souffrir et pour en jouir. » Que faire ? Écrire brièvement, car l'heure presse.
Et mentir.
Et mentir.
Mais c'est la dimension de l'imaginaire, parce que tout à l'heure on parlait du fait que si elle est spirituelle ou pas spirituelle, je pense que c'est une famille qui évidemment était probablement catholique comme tout le monde presque à l'époque, mais sa mère allait
à l'église
en mettant du corneille dans le missel et avec son chien. Et quand le curé lui faisait comprendre que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire...
Oui, elle venait avec son chien à la messe.
Mais que voulez-vous qu'il y apprenne ? Donc, c'est une famille qui était extrêmement, on va dire, moderne et provocatrice. Et Colette elle-même a fait de sa vocation à l'écrit, au verbe incarné, quelque chose qui remplace la religion. C'est l'athéisme, si on veut, assumé.
C'est la mystique païenne dont vous parliez.
Voilà. Sans dénier cette dimension de confrontation entre la vie et la mort. Et dans un des derniers textes, Étoile Vespère, elle parle aussi de cette recherche du mot juste, en évoquant, c'est encore la psychanalyse qui parle, qu'il est précédé, ce mot juste, par un cafouillage inconscient, griffouillage inconscient, qui ouvre un chemin étroit, un trou mental, quelque chose qui doit ressembler à la mort. Et c'est après que s'ouvrent les verts pâturages du mot juste. Donc il y a toute une expérience psychique de perte des mots banals et de découverte à partir de certaines transformations de soi, d'une mort du soi banal, social, pour arriver à ce corps métamorphique de Colette, qui était mime, qui était incestuelle, qui était homosexuelle, qui accouchait avec son fils adoptif, etc. Non pas des perversions, comme on les dit.
Elle accouchait avec le fils de son deuxième mari.
Qui
avait 16-17 ans.
Et qui sont des jalons de cette transformation, de cette mutation qui l'a conduit à cette sublimation qu'est l'écriture. C'est sa spiritualité qu'elle nous transmet.
Elle est contemporaine de Freud.
Contemporaine de Freud. Ah, merci de me donner. C'est parce que je pensais vous parler de ça. Nous avons 1900.
La sexualité assumée.
Freud,
bisexualité assumée. Vous l'appelez d'ailleurs reine des bisexuels.
Reine de la bisexualité.
Oui, l'orgasme féminin, tout ça est présent dans ses romans.
Elle dit elle-même, je suis un hermaphrodite mental. On parlera peut-être de ça plus directement, mais vous parlez de Freud. Vous avez l'an de 1900 où est publiée l'interprétation des rêves de Freud. Freud se penche sur les hystériques viennoises et leurs névroses pour parler de la femme et essayer de préparer une sorte de libération féminine, qu'il le veuille ou non, c'est ça qui va se passer. Et c'est en 1900 que Colette ne parle pas des névrosées, mais des filles espiègles de la France profonde qui sont beaucoup plus libres que les viennoises de Freud. C'est une espèce de contrepoids et de culture Europe centrale et française qui paraissent en même temps et qui signent tout le XXe siècle.
Je vous propose d'écouter un autre musicien que Colette a connu, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Antoine Compagnon, c'est Gabriel Fauré.
Oui, oui, bien sûr, ça fait partie de ceux qu'elle, on les a cités tout à l'heure, hein, Poulenc, Ravel, Debussy et bien sûr Fauré.
Et elle a dû entendre et applaudir peut-être ce morceau célèbre que joue Gauthier Capuçon après un rêve. Nous disions dans la première heure, Julia Kristeva, la première heure consacrée au fantôme de l'écrivaine Colette, qu'elle avait aussi connu Ravel et travaillé avec lui, puisqu'elle a écrit « L'enfant et les sortilèges ». C'est un enfant assez méchant qui va changer d'ailleurs. Là aussi, ce sera une renaissance de cet enfant. Il sera différent à la fin de l'œuvre. Vous vouliez dire un petit mot de sa collaboration avec Ravel ?
Oui, parce que Ravel a mis beaucoup de temps à écrire sa musique sur l'enfant et le sacrilège, mais cette œuvre a donné l'occasion d'une rencontre absolument symptomatique de nouveau de la culture de ce siècle et qui bouscule les normes et les identités. Melanie Klein, la grande psychanalyste des enfants méchants, des enfants difficiles, comme l'enfant dont parle Colette, Melanie Klein écoute cette pièce et écrit un texte sur le texte de Colette. Il fait donc une psychanalyse de texte de Colette en reconnaissant en elle une connaissance de la psychologie de l'enfant qui dépasse la psychanalyse de l'époque. C'est quelque chose de magnifique qui s'est produit grâce à Ravel. Rencontre entre Colette et Melanie Klein.
On va devoir terminer cet atelier fantôme, ce grand atelier fantôme consacré à votre amie commune, Julia Christeva, Antoine Compagnon, Colette. Colette, au départ, elle choque un peu avec ses seins nus sur scène, avec sa façon d'exprimer pour la première fois sous la plume d'une femme le désir, le corps des hommes, des femmes. Elle a choqué et puis en vieillissant, elle est devenue académicienne Goncourt, elle est devenue présidente de l'Académie Goncourt, son voisin du Palais Royal avec son petit esprit méchant Cocteau dit « oui, elle est devenue intouchable, elle est devenue reine de la littérature », il se gaussait un peu. Comment se fait-il que cette femme soit, peut-être pas soudainement, mais en tout cas radicalement, devenue une gloire des lettres à la fin de sa vie, Antoine Compagnon? Et on se quittera là-dessus.
Ben, ça s'est fait dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, elle écrit un certain nombre de très grands romans, enfin, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de la littérature française.
Pour vous, ce sont les meilleurs, hein, les romans de...
Oui,
c'est-à-dire Mitsou?
C'est-à-dire Le blé en herbe, Chérie, La fin de Chérie, on parlait tout à l'heure de La naissance du jour, et au milieu, La maison de Claudine et Sido. Il y a là un ensemble de, entre les deux guerres, qui a été reconnu très vite comme étant vraiment le sommet de la littérature française. On parlait tout à l'heure de Proust. Proust et Colette sont les deux grands écrivains français dès 1920, dès 1922. Je disais dans ce livre, un grand écrivain, c'est un écrivain après qui la langue française n'est plus tout à fait la même.
Et c'est le cas de Colette.
Et on peut dire cela de Proust, de Colette ou de Céline.
On lit d'Antoine Compagnon de l'Académie française aux éditions Équateur Parallèle avec France Inter, Un été avec Colette. Merci d'avoir été notre Monsieur Colette aujourd'hui. Et Julia Christeva, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième heure partagée avec vous autour du génie féminin. Le tome 3 est consacré à Colette et Julia Christeva publie chez Fayard. La mort, disait Colette, n'est qu'une banale défaite. Renaître n'est jamais au-dessus de mes forces.
Derrière ces trois fenêtres, hier encore ouvertes sur le Palais Royal, il n'y a plus rien. Colette est morte. L'auteur de tant de livres qui lui avait acquis de son vivant tout à la fois la gloire littéraire et la gloire officielle, Colette, grand officier de la Légion d'honneur, s'est éteinte à 81 ans. Et devant le catafalque dressé dans la cour d'honneur du Palais Royal, c'est Paris tout entier, le Paris populaire comme le Paris des lettres, qui est venu lui dire adieu. Qu'une foule nombreuse, anonyme, est venue jusqu'au cimetière du Père-Lachaise où elle va reposer entre Molière et Musset, ajouter son hommage à tant d'autres.
Karen Day a réalisé cette émission en direct du festival Mot pour Mot à la Villette, à Paris, à la Grande Halle. Merci à vous, public, d'avoir suivi l'émission. Vous étiez très nombreux, merci d'être venus. Je remercie Amel, Caldi et Marie Mougin de m'avoir aidé à la préparation, à Thierry Dupin qui programme la musique, aux techniciens Alexandre Martin, Hervé Dubreuil, Martin Guénard et Dominique.